Canal Académie. L'entretien de la semaine.
C'est une scène de genre a priori banale, avec une jeune femme qui veille sur un enfant dans son berceau, dans un intérieur bourgeois. Un univers paisible, feutré et même féerique, diront certains, se dégage de cette scène immortalisée par la peintre Berthe Morisot. Ce tableau, qu'elle nommera le berceau, deviendra son plus célèbre par la suite. Mais qui est donc la femme représentée dessus? Était-elle liée à Berthe Morisot et à quoi pense-t-elle véritablement? Pour nous raconter l'histoire de ce chef-d'œuvre impressionniste, nous accueillons cette semaine Sylvie Patin. Sylvie Patin, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien ce tableau car vous êtes conservateur général honoraire au musée d'Orsay, le musée où il est conservé aujourd'hui. Vous êtes également correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et une spécialiste de l'œuvre de Claude Monet. Mais cette année, c'est un autre peintre qui a retenu votre attention, Berthe Morisot, puisque vous avez publié ce livre, La féerie quotidienne selon Berthe Morisot. Et dans ce livre, vous racontez les coulisses de l'histoire du berceau. Je l'ai dit, c'est le tableau le plus célèbre de Berthe Morisot. J'ai commencé à le décrire un petit peu, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas précisément en tête. Qu'est-ce qu'on voit au juste sur cette toile ?
Alors, c'est une œuvre qui, curieusement, est une œuvre familiale, une œuvre intime. Et puis, cette scène qui était justement très familiale, puisque Berthe y a représenté sa sœur. En fait, sa sœur Edma, que vous voyez dans le tableau dans son entier, dans le premier abat du livre. Ce qui est frappant, c'est que, comme Berthe Morisot a vu comme un pressentiment, quand elle avait écrit il y a quelques années auparavant, quand Edma s'est mariée en 1869, avait du mal à s'habituer à la vie de province, à avoir quitté Paris, sa famille, sa sœur, la peinture. Berthe écrivait à sa sœur, mais il y aura un jour, tu verras, je vois très bien un épanouissement pour toi, ce sera la maternité. Or, Edma a eu un premier enfant, mais en fin 1871 est née la petite Blanche que vous avez dans le berceau. Cette naissance a eu lieu à Paris. En fait, Edma est devenue chez ses parents à Paris. Donc là où était encore Berthe célibataire. Alors de ce fait, c'est tout à fait spontané, c'est tout à fait naturel que Berthe, ayant vu sa sœur veiller sa nièce dans le berceau, ait pris les pinceaux et immortalisé cette scène. Et ce tableau est un chef-d'œuvre, notamment pour la transparence du voile, où vous voyez l'enfant à travers, on voit justement que Berthe Morisot a voulu isoler l'enfant avec la mère. Le voile nous sépare, nous sommes spectateurs à travers le voile. Et ce tableau a aussi une très grande signification dans l'œuvre de Berthe Morisot. Il est d'ailleurs si remarqué qu'en 1995, quand il a fallu célébrer le centenaire de la mort de Berthe Morisot, il a fait l'objet d'un timbre par la poste. Donc, c'est vous dire qu'il est le must de Berthe Morisot.
Et on va reparler d'Edma. J'ai préparé quelques questions dessus, mais je voulais revenir sur la diffusion, l'exposition de cette œuvre du berceau. Elle a été réalisée en 1872. Nous sommes juste avant la naissance officielle du mouvement impressionniste. Comment Berthe Morisot, comment elle se positionne par rapport à ce mouvement ? Est-ce qu'elle y adhère pleinement dès le début à l'impressionnisme ?
Alors justement, c'est le caractère de Berthe Morisot qui apparaît tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, elle est liée avec Manet. Elle épouse d'ailleurs, 6 mois après l'exposition impressionniste, le frère d'Édouard Manet, le peintre, elle épouse Eugène Manet. Or, Manet refuse de s'allier au groupe de peintres qui seront appelés impressionnistes en 1874. Il veut absolument continuer à obtenir la reconnaissance officielle du salon, alors qu'au contraire, Berthe se joint au groupe de Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, et expose 1874 en ne tenant pas compte qu'elle est Madame Eugène Manet, en ne tenant pas compte de la position d'Édouard Manet. Donc, on voit le caractère très déterminé de Berthe Morisot, le bon choix. Elle a tout de suite vu que c'était un groupe, une école de l'avenir, comme on pourrait dire. Mmh. Et donc, elle a adhéré aussitôt. Elle a d'ailleurs été un élément très important dans le groupe impressionniste, puisqu'elle était, je dirais, la seule femme avant d'être rejointe par Marie Cassatt, l'américaine. Mais c'est quand même Berthe Morisot qui est vraiment le trait d'union entre les artistes et qui restera, du fait de sa disparition prématurée en 1895, qui restera aussi une figure très aimée, une figure importante dans le mouvement impressionniste, ce qui lui a valu d'ailleurs la réflexion de Pissarro à sa mort en disant « Nous perdons une consoeur qui faisait hommage à notre groupe ». Donc, vous voyez, elle était reconnue par tous les peintres et à sa mort, tous se sont manifestés en l'admirant.
Et peut-être un peu plus de précision sur Berthe Morisot, cette peintre impressionniste. Qui est-elle exactement ? Dans quel milieu elle va grandir avec sa sœur ?
Alors, sa ville natale est Bourges. Elle est née à Bourges, où son père était temporairement était préfet. Et puis, la famille de son père a regagné Paris, où il a travaillé à la Cour des comptes, et s'est installée à Passy. Elle a donc vécu rue Franklin, au début, à l'emplacement de l'actuel collège Saint-Louis de Gonzague, puis ensuite rue Guichard. Et puis, quand elle s'est mariée, elle a évolué, elle est allée prendre la main de Victor Hugo, mais surtout, avec son mari, elle a bâti dans les années 1880, elle s'est installée rue de Villejuste, qui est l'actuelle rue Paul-Valéry.
Alors, elle est connue pour plusieurs œuvres. J'en reviens au berceau, qui est le sujet de ce livre. Comment le tableau, ça sortait, comment il va être remarqué? Est-ce qu'il est même remarqué par le public, les critiques d'art de l'époque?
Oui, il est remarqué, les critiques le nomment. Et elle est même, si vous voulez, elle sauve un petit peu même le groupe, si on veut dire. Parce que quand il y aura une vente en 1875, ces tableaux seront achetés, certains tableaux, pas le berceau, mais certains tableaux. Elle rassure le public, en fait, parce qu'elle est une figure sereine. Des paysages, il n'y a pas d'audace. Donc les critiques ne se déchaînent pas du tout sur Berthe Morisot. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'elle est née en 1841. Donc en 1874, elle a 33 ans. Et ce tableau, donc, qui était une scène familiale, c'est donc une scène totalement spontanée et qui aussi est tout à fait en rapport avec le caractère de Berthe Morisot, qui sera elle-même mère plus tard en 1878, avec une fille unique, Julie qui sera son modèle de prédilection et qu'elle adorera. Donc, elle sera très mère. C'est d'ailleurs la seule année où elle n'exposera pas à l'exposition impressionniste en raison du manque de travail qu'elle avait fait pour se consacrer à son enfant.
Dans votre livre, Sylvie Patin, vous avez choisi de raconter l'histoire de ce chef-d'œuvre à travers la voix d'Edma Morisot, qui est la sœur de Berthe, et qui est donc le personnage représenté sur ce tableau. Ce choix de personnage pour raconter ce tableau, il n'est pas vraiment anodin, le fait d'avoir choisi la sœur, ce sont toujours des liens si particuliers qui se tissent entre deux sœurs.
Alors, c'est tout à fait exact, et vous soulignez exactement un des points du livre, c'est-à-dire que c'est non seulement autour du tableau du berceau, mais c'est surtout aussi la liaison, le lien qui unissait deux sœurs et qui se traduit dans cette correspondance qui est intéressante. Alors, la collection Le roman d'un chef-d'œuvre, dans cette collection, l'entête sur le livre, c'est de dire qu'on mêle récit romanesque et enquête historique. J'aime beaucoup l'enquête historique parce que je suis historienne aussi de formation, donc j'ai voulu respecter à la fois les dates, la chronologie, les faits et les lettres, les sources. Et le récit romanesque, je n'ai rien inventé parce que la vie de Berthe Morisot est suffisamment romanesque et le lien entre ses deux sœurs et leur correspondance est suffisamment romanesque. Alors, ces deux sœurs très liées, c'est un petit peu justement l'illustration de des rabats, en fait, de ce livre, de répondant entre les deux sœurs. À la fois, elles se sont écrites, elles se sont peintes. Berthe Morisot est morte la première en 1895. Sa sœur lui a survécu beaucoup plus longtemps.
C'était sa sœur aînée. Elles avaient seulement 13 mois d'écart.
Elles avaient 13 mois d'écart et elles étaient dans une fratrie de plusieurs, notamment le dernier étant un garçon.
Et donc, Edma Morisot, ce personnage qui raconte ce chef-d'œuvre et qui est sur ce tableau, elle a renoncé, vous l'avez dit, à sa carrière pour devenir Madame Adolphe Pontillon. Elle a repris le nom de son mari. Comment elle vit ce sacrifice? Est-ce qu'elle le perçoit même comme un sacrifice à l'époque?
C'est très curieux parce qu'elle aurait pu continuer à peindre, à faire de l'aquarelle sans exposer. Pour elle, pour son plaisir, aurait-elle vraiment arrêté? Elle est très prise par la lecture et par ses enfants. Elle avait aussi la propriété de sa belle famille Pontillon à Maurecourt, où elle invite Berthe qui vient peindre, d'où de très beaux tableaux à Maurecourt. Et si j'ai donné la parole à Edma, c'est justement parce que, si vous voulez, dans un musée, vous voyez les tableaux, le bon moment aussi pour un conservateur, c'est quelquefois avant l'ouverture, après la fermeture, ou le lundi pour le musée d'Orsay lorsqu'il est fermé, lorsqu'on s'occupe des œuvres, qu'on décroche les tableaux, ce que j'ai un peu expliqué dans l'épilogue, les restaurateurs. Or, on s'imagine un petit peu que toutes ces personnes, ce milieu familial a vécu. En fait, c'est totalement réel, si vous voulez. Et j'ai trouvé justement que de donner la parole à Edma, qui une nuit descend du tableau et qui se promène un peu dans les salles et revit un peu son passé, c'était une sorte d'authenticité du récit.
Je reviens au tableau, si on regarde bien le regard d'Edma. Dans le tableau du berceau, on aperçoit un regard assez grave, songeur. Alors comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Vous, vous suggérez l'accomplissement de la maternité. Est-ce qu'on peut y voir autre chose? Du spleen, du regret?
On peut y voir une sorte de regard songeur et méditatif. Pensait-elle, elle était heureuse, elle venait d'avoir ce second enfant. Vous savez, on dit souvent qu'il y a une dépression postpartum, la dépression après la naissance. Bon, peut-être, effectivement, pensait-elle qu'heureusement, elle était mère, ce qui lui faisait un peu oublier d'avoir rompu avec la peinture. Mais cette explication, je ne la trouvais pas dans le livre parce que je ne l'ai pas. C'est pourquoi a-t-elle rompu si brutalement avec la peinture. D'autant plus qu'elle continue à dire dans ses lettres, parle-moi de Degas, quand je pense à tout ce que tu fais et tout, je t'envie. Et puis, quand elle est dans un lieu, Berthe Morisot lui décrit, notamment à Cimiez, à Nice, le paysage qu'elle a. Elle lui aura fait des références avec les paysages d'Italie, avec Botticelli. Donc, en fait, elle continue à demander, à être informée de la peinture, à être informée des amis peintres qu'elle a laissés derrière elle. Donc, vous voyez, c'est assez ambigu.
Dans une lettre qu'elle adresse à sa sœur, que Edma écrit à Berthe, elle lui raconte son quotidien, et puis elle lui écrit « Toujours la même vie ici, le coin du feu et la pluie qui tombe ». Ce qui pourrait laisser suggérer qu'elle s'ennuie peut-être un petit peu.
Alors ça, c'était au tout début, justement, quand elle n'était pas mère, en fait, quand elle n'avait pas d'enfant. Et c'est là où ce qui a déclenché un peu la lettre de Berthe Morisot, lui disant « Mais tu as une vie très heureuse, tu sais, la vie n'est pas faite pour être seule. » Alors là, on voit le vrai caractère de Berthe Morisot, qui, bien sûr, n'aurait jamais abandonné la peinture pour le mariage, mais qui, justement, a été un petit peu courtisée par Pierre Puvis-Chavannes, ce qui aurait été... La solution, c'était d'épouser un peintre. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec Eugène Manet, qui était peintre. Berthe n'a pas abandonné la peinture, mais elle n'aurait pas voulu vivre seule. Et surtout, elle s'est réjouie d'être mère. Donc, si vous voulez, le caractère de Berthe Morisot, même si elle était complètement dans sa peinture, n'était pas exclusif de la vie heureuse. Et de même, vous avez évoqué la féerie quotidienne, ce moment qui est assez un peu féerique. Eh bien, c'est un terme qui vient de Mallarmé.
Qu'il admirait beaucoup.
Et qui après, dans l'exposition posthume que tous ses amis impressionnistes avec Mallarmé ont organisée en 1896, un an après la mort de Berthe Morisot, eh bien ce terme a été employé par Mallarmé, où il a dit dans la préface du catalogue, en parlant de l'art de Berthe Morisot, oui, féerie quotidienne. Et effectivement, c'est la vie de tous les jours, un petit peu transfigurée. Et c'est pourquoi j'ai rapproché ce tableau un petit peu du nouveau-né de Rennes, le nouveau-né de Georges de la Tour. On voit cet enfant dans les bras, où on dit c'est peut-être une mère avec son enfant, ou c'est la Vierge Marie avec un enfant. Et là, il y a une sorte de caractère un petit peu sacré, comme si le voile nous éloignait. Et effectivement, le regard d'Edma peut interroger. Il a d'ailleurs prêté à des commentaires de psychologues. Alors, certains peuvent se lancer en disant « Mais non, elle n'est pas heureuse, elle est très triste, elle regarde l'enfant avec tristesse. » Ce n'est pas sûr. Parce qu'elle a le regard vraiment porté. Ce qui est très beau, et ce que j'ai voulu que le maquettiste respecte sur la couverture, c'est ce triangle. C'est-à-dire, vous avez le regard de Berthe penché vers l'enfant. L'enfant qui dort les yeux, mais qui est juste dans sa direction. Et puis, vous avez le troisième élément, le troisième point du triangle, c'est la main. La main d'Edma qui rapproche le rideau pour vraiment isoler son enfant du monde du bruit.
Pour revenir à Mallarmé, qui admirait beaucoup Berthe Morisot, vous l'avez dit, il disait qu'elle trouvait toujours de l'inspiration dans les scènes de vie quotidienne, des scènes apparemment banales. Elle changeait le quotidien en féerie. C'est ce qui, selon vous, caractérise l'art, la patte de Berthe Morisot ?
Certainement, c'est-à-dire que c'est à la fois très simple, une vie quotidienne, et en même temps, c'est un petit peu transfiguré. C'est évident que les toiles de Berthe Morisot, les bouquets de fleurs, avec les scènes, avec les jardins, elle a notamment partagé avec Monet le goût de la mer, le goût des jardins, les baies vitrées quand elle représente son mari, quand il est sur l'île de Wight, avec le jardin à l'arrière-plan. Le personnage de Berthe Morisot est de toute manière assez énigmatique, il a été toujours souligné par les écrivains, par les poètes, par Henri de Régnier, comme quelqu'un qui en imposait, pas Paul Valéry, qui disait justement qu'elle avait un regard, une présence d'absence. C'est un petit peu le titre qu'avait choisi Dominique Bonnat lorsqu'elle avait écrit la biographie très complète de Berthe Morisot, où elle avait appelé « Le secret de la femme en noir ».
Alors elle va poursuivre son œuvre, son art. Elle peint des scènes de genre, des scènes en extérieur. On peut citer Les jours d'été, La Psyché, qui sont des tableaux assez connus de Berthe Morisot. Elle va se lier aussi avec Degas, Renoir et puis Manet, qui sont aussi des figures de proue de l'impressionnisme. Je m'attarde un petit peu sur Édouard Manet, pas Eugène, Édouard, parce qu'ils ont eu une relation assez particulière, certains diront même ambiguë. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur
Alors, Édouard Manet n'a jamais fait partie du groupe impressionniste, dans la mesure où il n'a pas exposé à aucune des expositions impressionnistes. mais il a eu des toiles impressionnistes. C'est-à-dire l'été 1874 à Argenteuil, il a été inspiré, il allait souvent chez Monet peindre aussi le voir à Argenteuil. L'ambiguïté de la relation, elle s'est située entre la rencontre de Berthe Morisot et de Manet dans le Louvre, grâce à Fantin-Latour et à Stevens, en 1868, et jusqu'en dans les années 1873, où elle a servi de modèle à Manet. Elle est allée très souvent dans l'atelier de Manet, poser avec lui. Manet disparaîtra en 1883 d'une mort prématurée, et là, elle écrira cette lettre à sa sœur, qui en dit long, en disant à quel point elle est bouleversée, à quel point elle pense aux conversations qu'elle avait autrefois, qu'elle perd un ami. Elle a été très liée. On ne peut pas savoir très précisément, il n'y a pas de traces. Les seuls éléments ambigus, ce sont donc cette série de portraits, d'abord en noir, en blanc, notamment dans le balcon. Où il est, dès 1869, elle est au salon, peinte dans le balcon par Édouard Manet. Et puis, elle apparaît dans des portraits habillés en noir parce qu'elle a perdu son père. Et puis, elle passe l'été à Fécamp en 1873. Et c'est là qu'ont lieu les fiançailles en 1874 de Berthe Morisot.
Avec Eugène.
Avec Eugène, le frère. Donc, elle va devenir madame Manet, mais non pas Madame Édouard Manet. Édouard, de son côté, avait une liaison avec son professeur de piano, qui avait été le professeur des fils Manet, Suzanne Lenoff, qui était une Hollandaise, qu'on appelait la grosse Hollandaise très souvent, et qui lui aurait peut-être donné un fils. Elle avait un fils qui s'appelait du nom de Lenoff, mais qui figure dans certains tableaux de Manet, et on a pu dire que celui qu'il appelait parrain, car il appelait Édouard Manet parrain, ce garçon, eh bien, peut-être que Édouard Manet était son père, mais ça n'a jamais été vérifié. Il n'y a aucune correspondance entre Manet et Berthe Morisot, enfin importante pour nous éclairer. Et il y a peut-être un tableau qui est assez émouvant, qui a été fait en 1872. Il est souvent considéré comme un tableau de fiançailles ou à l'occasion des fiançailles de Berthe Morisot, ce qui est faux, puisqu'en 1872, Berthe n'était pas du tout fiancée à Eugène. Et ce tableau, c'est une toute petite toile, minuscule, une vingtaine de centimètres, avec des objets qui sont les accessoires de Berthe Morisot, c'est-à-dire le bouquet de violettes, qu'il avait d'ailleurs reproduit dans son tableau, avec la dame en noir au bouquet de violettes au corsage. Il y a l'éventail de Berthe Morisot en lacrouche, qui est très souvent présent d'ailleurs dans des toiles de Berthe Morisot, et puis et aussi dans le balcon. Et puis, il y a un petit billet très discret où il y a marqué « À Berthe, Édouard ». En fait, c'est un cadeau d'Édouard Manet à Berthe Morisot, mais nous ne savons rien sur les circonstances. Ce que nous savons, c'est qu'il a aussi peint une peinture de Berthe Morisot noire où elle porte la main au visage et on remarque l'alliance. C'est-à-dire que c'est comme un cadeau de mariage, on pense. Il a représenté sa belle-sœur, qui devenait sa belle-sœur. Et puis après, les portraits se sont arrêtés, évidemment.
On devine une certaine tendresse d'Édouard Manet envers Berthe Morisot. Ça ne l'a pas empêché de dire, à propos des sœurs Morisot, elles sont charmantes, mais c'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. C'est ce que vous racontez.
Il y a une lettre assez amusante, vous ne l'avez pas poursuivie, mais c'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes, parce qu'en fait, justement, peut-être pensant aussi qu'elles seraient peut-être arrêtées dans la carrière, ce qu'avait dit le professeur Guichard. Le professeur des élèves avait écrit deux lettres, d'ailleurs, à la mère des deux sœurs, de Berthe et d'Edma, et il avait dit, est-ce que vous vous rendez compte de l'avenir que vous préparez à vos deux filles? Ce ne sont pas des tempéraments d'amateurs, ce ne sont pas des talents d'amateurs, elles vont persévérer, et vous verrez, vous maudirez un jour l'art que vous avez fait rentrer dans cette maison, car la vie pour des femmes, qu'elles se livrent à l'aquarelle, c'est très bien, mais qu'elles veuillent rentrer dans le monde de la peinture et des peintres, c'est une autre affaire. Et Madame Morisot, mère, n'a rien écouté, a continué à inviter les peintres, car elle invitait les frères Manet à sa table, à ses dîners, et donc elle n'en a pas tenu compte.
Alors, sur l'histoire du berceau, il commence par être exposé une première fois en 1874, lors de cette fameuse exposition impressionniste. Il ne sera plus exposé du vivant de Berthe Morisot. C'était une volonté de sa part? Qu'est-ce qu'elle a cherché à faire de ce tableau après?
Nous n'avons pas d'éléments. Elle a peut-être remis l'œuvre à sa sœur, dans la mesure où nous découvrons qu'en 1896, lorsqu'elle est à l'exposition posthume, il est prêté par Madame Pontillon. Il est hors catalogue, c'est-à-dire qu'il est ajouté à la fin, sans doute peut-être parce qu'elle a eu des problèmes pour faire venir le tableau, je ne sais pas, mais il est bien à l'exposition posthume. Et ce tableau continue à rester bien dans la famille, puisque Blanche, le petit bébé que vous voyez dans le berceau, Blanche, qui deviendra Blanche Forget, le vendra en 1930 aux musées nationaux. Et puis, il sera dans les collections du musée du Jeu de Paume ensuite qui seront transférées au musée d'Orsay. Alors il y a un petit élément que j'ai d'ailleurs retrouvé dans le dossier de l'œuvre au musée d'Orsay, c'est qu'en 1938, lors de la venue du roi d'Angleterre avec Elisabeth, la grand-mère du roi actuel, la grand-mère de Charles, eh bien elle dormait au palais d'Orsay dans sa chambre à coucher, était exposé le berceau. Les autorités avaient dû juger que c'était une toile féminine en accord pour une chambre de la reine en France. Donc vous voyez là aussi, c'est un élément à la fois émouvant, historique et un petit peu justement montrant que le tableau avait une vie. Alors de nos jours, il vit beaucoup parce qu'il est très prêté en exposition, il est très demandé. Évidemment, il y a aussi l'importance du musée Marmottan à Paris qui a reçu en legs un fonds Berthe Morisot très important. Et donc, si vous voulez, il y a une vie qui continue après le tableau. Là, le berceau a été exposé dans l'exposition qui fêtait les 150 ans de la naissance de l'impressionnisme l'été dernier au musée d'Orsay, puis il a repris après les cimaises et puis il se promène en exposition. Donc c'est une très belle image du lien de Berthe Morisot. Mais sur ce tableau, on voit justement qu'il est resté dans la famille non exposée du vivant de Berthe Morisot. L'a-t-elle donné aussitôt à sa sœur ? L'a-t-elle exposé en 1874 ? Il aurait pu être vendu à l'exposition, il avait un prix. Donc ça montre qu'à l'époque, je pense qu'elle ne l'avait pas encore donné. C'est après que je pense que peut-être Edma l'a demandé. Elle a très souvent peint sa sœur, c'est ce que je souligne dans l'ouvrage. Ça n'est pas un tableau singulier dans le sens que sa sœur, si elle avait abandonné la peinture, elle lui servait de modèle. Et elle était très heureuse à Cherbourg ou devant une fenêtre de lire ou dans le jardin de Maurecourt avec ses filles, des scènes au jardin avec les ombrelles, les rubans, les chapeaux, les capelines, tous ces accessoires qui rendent ces tableaux magnifiques. Comme des scènes d'été qui sont maintenant la plupart des tableaux au musée d'Orsay.
Oui, elle aimait beaucoup les scènes en extérieur. Elle vouait une passion pour les arbres, pour la nature.
Oui, et elle disait toujours que c'est les années à Bougival où elle avait loué une maison qui d'ailleurs va ouvrir prochainement au public. C'est pendant 4 étés où d'ailleurs elle continuait à aller voir aussi à Rueil Édouard Manet qui était très souffrant et qui passait ses étés à Rueil pour se reposer puisqu'il est mort en 83. Et dans cette maison de Bougival où il y avait un magnifique jardin où elle peignait Julie au milieu des roses trémières et elle a écrit un jour que c'était la période la plus heureuse de sa vie. Et on voit que quand elle s'est installée rue de Villejuste, il y avait un jardin pour lequel a travaillé d'ailleurs beaucoup Eugène. Et notamment, il y avait une sorte de fusion entre l'extérieur et l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, comme l'a décrit Jacques-Émile Blanche, il y avait des bouquets de jonquilles, des bouquets de fleurs à l'intérieur du salon de Berthe Morisot, mais les fenêtres ouvraient aussi à l'arrière sur le jardin. Et également, Mallarmé a noté qu'elle avait aussi, ce qui lui tenait lieu aussi de jardin, c'était le bois de Boulogne, où elle se rendait souvent pour peindre les cygnes évoluant sur le lac et faire de l'aquarelle avec Julie.
Vous l'avez dit, Berthe Morisot décède en 1895. Qu'est-ce qui se passe après sa mort ? Est-ce qu'elle est un peu oubliée ? Elle est considérée un peu comme une figurante du mouvement impressionniste ? Qu'en est-il ?
On ne peut pas dire qu'elle a été vraiment oubliée, mais elle n'a pas été en première place. Par exemple, elle n'avait pas eu une grande exposition à partir, vous savez, des années 1974, de l'exposition du centenaire de l'impressionnisme au Grand Palais. Plusieurs expositions monographiques ont été dévouées à tous les peintres. Et Berthe Morisot n'en avait pas encore une. En 2000, à l'occasion d'un dépôt, d'un portrait de Berthe Morisot par Manet, ce dépôt étant effectué au musée des Beaux-Arts à Lille, avait été organisée une exposition. Berthe Morisot, c'est d'ailleurs la première fois que j'ai travaillé sur Berthe Morisot parce que j'étais co-commissaire avec Sylvie Patry de l'exposition au musée des Beaux-Arts de Lille. Et effectivement, là, on voit qu'elle a été un peu sacrifiée puisqu'elle n'avait pas eu encore d'exposition. Et puis, elle a eu récemment une exposition au musée d'Orsay. Mmh. Elle en a eu plusieurs au musée Marmottan. Donc, effectivement, la cadence est accélérée. Mais il faut quand même souligner que sa sœur Edma et notamment sa fille Julie ont beaucoup fait pour la diffusion de Berthe Morisot. Notamment, Julie a vendu certaines bonnes toiles, notamment dans des musées étrangers. Elle a bien veillé à ce qu'il y ait une diffusion. Elle a gardé certaines toiles dans la famille. Elle a gardé des toiles dans la maison de la rue de Villejuste. Mais, si vous voulez, il y a eu quand même... On ne peut pas dire que c'était une méconnaissance totale. Alors, peut-être que maintenant, il y a un peu un revers de médaille. C'est comme maintenant, on cherche à mettre les femmes à l'honneur. Il y a eu un musée des femmes qui viennent se créer. Si vous voulez, là, au contraire, elle bénéficie d'une
couverture.
Sorte d'aura. Voilà. On met davantage l'accent sur elle, mais elle a évidemment un talent qui a été souligné. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce milieu de Berthe Morisot, c'est qu'elle a mêlé les écrivains et les peintres, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas dans l'impressionnisme. Et c'est pour ça que l'importance dans les livres des regards croisés avec les textes faisant évoquer Berthe Morisot, notamment les textes d'Henri de Régnier sont très beaux. Et notamment, il y a un poème magnifique qui évoque la figure de Berthe Morisot au milieu du groupe impressionniste. Donc elle, elle avait totalement sa place au milieu du groupe. Elle n'était pas du tout de côté. En plus, elle était au centre et elle avait même un caractère très calme. Elle l'écrivait à sa sœur en disant « Ils ont tous quelquefois des petits traits de caractère un petit peu qui me déçoivent. Alors j'essaye de tout remettre pour que justement le groupe s'entende. » Elle détestait les mésententes, les malentendus. Elle essayait toujours que tout le monde ait une bonne entente.
Sur le tableau du berceau, vous disiez qu'il était très souvent prêté. Est-ce qu'aujourd'hui, il est actuellement au musée d'Orsay? Est-ce qu'on peut aller le voir au musée d'Orsay?
En ce moment, à l'heure actuelle, je n'ai pas vérifié, parce que je ne voudrais pas me mouiller. Et je sais que quand j'écrivais le livre, il y avait des moments où il était en exposition, parce que je voulais aller le revoir souvent, justement, et je le voyais. Et souvent, je me positionnais d'ailleurs très loin, et je remarquais que les personnes qui s'y arrêtaient, s'arrêtaient longuement en le regardant. Ce qui m'a beaucoup frappée, d'ailleurs, ça m'intéressait. Il y a aussi un cartel explicatif à côté qui explique un petit peu la scène, enfin le lien de la sœur. Et ça m'intéressait de voir, parce que le musée d'Orsay regorgeant de chefs-d'œuvre, si vous voulez, les personnes pourraient passer très rapidement devant l'œuvre. Et ce qui me frappait, c'est que les personnes restaient. Alors, c'est un tableau, moi, qui m'avait fasciné depuis, puisque je l'ai vu depuis... je suis entrée dans les musées en 1874, comme j'étais au Jeu de Paume et au musée d'Orsay pendant 30 ans. Disons que je le voyais tout le temps. Et c'est un tableau qui m'avait toujours fasciné. Alors, c'est pour ça que j'aurais peut-être... puis écrire sur Monet dans la collection le roman d'un chef-d'œuvre.
Ce sera le prochain
non,
livre, peut-être.
Parce que
non.
Quand je l'ai proposé à l'éditeur, il m'a dit ah non, Monet est déjà pris, il y a quelqu'un qui travaille sur le titre. J'ai dit très bien. Et là, il m'a dit mais j'aimerais bien que vous écriviez un livre. Et c'est là où j'ai eu l'idée de lui dire bah, alors, il y a un tableau que je voudrais bien. Et là, j'ai vu Henri Douget était absolument ravi en pensant justement que c'était très bien, qu'il n'avait pas tant de femmes dans la collection, vous voyez, et justement de femmes peintres. Et puis que le tableau était magnifique. Et effectivement, il était tout à fait heureux. Et il m'a laissé agir.
Et on invite les auditeurs à le découvrir au musée d'Orsay et à travers aussi votre livre. Je rappelle le titre, Sylvie Patin, La féerie quotidienne selon Berthe Morisot. Et c'est à découvrir aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Canal Académie.